Intermède 4, la dernière légion. Donc, de quel type de Spren s'agit-il ? Demanda Tude sur le rythme lent de curiosité. Il leva la gemme pour regarder la créature vaporeuse qui remuait à l'intérieur. Un Spren de tempête, répondit Shonai en s'adossant au mur, bras croisés. Les fragments de gemme brutes noués dans les mèches de la barbe de Tude tremblèrent et scintillèrent lorsqu'il se frotta le menton. Il tendit la grande gemme taillée à Bila, qui s'en empara et la tapota à l'aide de son doigt. Ils étaient une paire de guerriers de la division personnelle des Shonai. Ils portaient des vêtements simples, conçus pour entourer les plaques d'armure chitineuses sur leurs bras, leurs jambes et leurs poitrines. Tude portait également un long manteau, mais il ne l'emmenait pas au combat. Et Shonai, par contraste, portait son uniforme dont le tissu rouge se tendait par-dessus son armure naturelle, ainsi qu'un casque sur sa plaque crânienne. Elle ne parlait jamais de la façon dont cet uniforme l'emprisonnait, en lui donnant l'impression d'être immobilisé par des menottes. « Un Spren de tempête !» répéta Bila sur le rythme de scepticisme, tout en retournant la pierre entre ses doigts. « Est-ce qu'il va m'aider à tuer les humains ? Autrement, je ne vois pas pourquoi je devrais m'y intéresser. » « Ça pourrait changer le monde, Bila, » répondit Shonai. « Si Venli a raison, et qu'elle parvient à se lier avec ce Spren et à en tirer une forme que la morne, eh bien... Dans le pire des cas, nous disposerons déjà d'une forme toute nouvelle à choisir. Et dans le meilleur, nous aurons le pouvoir de contrôler les tempêtes et d'exploiter leur énergie. Donc, elle va faire cette tentative personnellement ? Demanda Tude sur le rythme des vents qu'ils utilisaient pour estimer quand une tempête majeure approchait. Si les cinq lui accordent leur permission. Ils devaient en débattre et prendre leur décision aujourd'hui même.
C'est formidable ! Lança Bila. « Mais est-ce que ça m'aidera à tuer les humains ?»
Et Shonai se cala sur deuil. « Si la forme de tempête est réellement l'un des pouvoirs anciens, Bila, alors oui, elle t'aidera à tuer les humains, en grand nombre. »«
Alors ça me va !» déclara Bila. « Pourquoi es-tu si inquiète ?»«
On dit que les anciens pouvoirs provenaient de nos dieux.
Et alors, si les dieux voulaient bien nous aider à tuer ces armées, je leur prêterais allégeance sur le champ. »
« Ne dis pas ça, Bila, » répondit Shonai sur réprimande. « Ne dis jamais rien de tel. » La guerrière se tut et jeta la pierre sur la table. Elle fredonnait tout bas sur scepticisme. Voilà qui confinait à l'insubordination. Et Shonai croisa le regard de Bila et se surprit à fredonner tout bas sur résolution. Le regard de Tude passa de Bila à Shonai. « Manger ?» demanda-t-il. « Est-ce ta réponse à tous les désaccords ?» interrogea Shonai. Interrompant son chant.
C'est difficile de se disputer la bouche pleine, répondit Tude.
Je crois bien t'avoir déjà vu faire, objecta Bila, et souvent.
Mais ces disputes-là se terminent bien, conclut Tude, parce que tout le monde est rassasié. Donc, manger ?
D'accord, acquiesça Bila en se tournant vers Shonai.
Ils se retirèrent. Et Shonai s'assit à table, épuisée. Quand avait-elle commencé à s'inquiéter de l'insubordination de ses amis ? C'était cet uniforme hideux. Elle ramassa la gemme et scruta ses profondeurs. Elle était grande, environ un tiers de la taille de son poing, même si les gemmes n'avaient pas besoin d'être grandes pour emprisonner un Spren. Elle détestait les capturer. La bonne manière consistait à se rendre au cœur de la tempête majeure avec la bonne attitude. À chanter le chant adéquat pour attirer le bon Spren. On se liait avec lui dans la fureur de la tempête, et l'on renaissait avec un nouveau corps. Les gens faisaient ça depuis l'arrivée des premiers vents. Ceux qui écoutent avaient appris auprès des humains que la capture des Spren était possible, puis avaient compris le processus par eux-mêmes. Un Spren captif rendait la transformation nettement plus fiable. Auparavant, il y avait toujours eu un élément de chance. On pouvait se rendre au cœur de la tempête en désirant devenir soldat et ressortir accouplant à la place. C'est ça, le progrès, songea Shonai en étudiant le petit Spren vaporeux à l'intérieur de la pierre. C'est apprendre à contrôler le monde, ériger des murs pour arrêter les tempêtes, choisir quand devenir accouplant. Le progrès, c'était prendre la nature et placer une boîte tout autour d'elle.
et Shonai empocha la gemme et consulta l'heure. Son rendez-vous avec les autres membres des cinq n'était pas prévu avant le troisième mouvement du rythme de paix, et il lui restait une bonne moitié de ce mouvement d'ici là. Il était temps de parler avec sa mère. Et Shonai sortit dans Arrak et marcha le long du chemin, adressant un signe de tête à ceux qui la saluaient. Elle croisa essentiellement des soldats. La forme de guerre était portée par une si grande partie de leur population ces jours-ci. Leur population réduite. Autrefois, ceux qui écoutent avaient été des centaines de milliers, éparpillés à travers ces plaines. Il n'en restait désormais qu'une fraction. Même alors, ça avait été un peuple uni. Oh, il y avait bien des divisions, des conflits, et même des guerres parmi leurs factions. Mais ils avaient été un peuple unique, ceux qui avaient rejeté leur dieu et cherché la liberté dans l'obscurité. Bila ne se souciait plus de leurs origines. Il devait y en avoir d'autres comme elle, qui ignoraient la menace des dieux et ne se concentraient que sur le combat contre les humains. Et Shonai longea des habitations, des baraques délabrées, bâties à partir de crémons durcis par-dessus les charpentes de carapaces, blotties dans l'ombre sous le vent de masses rocheuses. La plupart étaient vides à présent. La guerre leur avait pris des milliers de gens au fil des ans. « Il faut que nous fassions quelque chose », songea-t-elle, en se calant sur le rythme de paix dans un coin de son esprit. Elle chercha réconfort dans sa cadence, calme et apaisante, douce et harmonieuse, comme une caresse. Puis elle vit les mornes. Ils ressemblaient beaucoup à ce que les humains baptisaient « parches ». Même s'ils étaient un peu plus grands et beaucoup moins stupides. Malgré tout, la forme morne était une forme restrictive, dépourvue des capacités et des avantages des formes plus nouvelles. Il n'aurait pas dû y en avoir ici. Ces gens-là s'étaient-ils liés avec les mauvaises prennes par erreur? Ça se produisait parfois. Et Shonai se dirigea vers le groupe de trois. Deux fémines et un masquin. Ils traînaient des boutons de roche cueillis sur l'un des rochers tout proches. Les plantes qu'on avait encouragées à grandir rapidement grâce à des gemmes infusées de fulgiflammes. « Que se passe-t-il ? » s'inquiéta Shonai. « Avez-vous choisi cette forme par erreur ? Ou êtes-vous de nouveaux espions ?» Ils la regardèrent avec des yeux inexpressifs. Et Shonai se cala sur anxiété. Un jour, elle avait essayé la forme morne. Elle avait voulu savoir ce que leurs espions devraient endurer. Tenter d'obliger son cerveau à intégrer des concepts lui avait fait le même effet qu'essayer de réfléchir de manière rationnelle dans un rêve. « Quelqu'un vous a-t-il demandé d'adopter cette forme ?» interrogea Shonai d'une voix lente et claire. « Personne ne nous l'a demandé, » répondit le masquin sans adopter le moindre rythme. Il parlait d'une voix morte. « Nous l'avons fait.
Pourquoi ?»
s'enquit Shonai.
« Pourquoi faire une chose pareille ?»«
Les humains ne nous tueront pas quand ils viendront, » répliqua le masquin, qui reprit son bouton de roche et poursuivit son chemin. Les autres l'imitèrent sans un mot. Et Shonai les regarda bouche bée, tandis que le rythme d'anxiété résonnait d'une cadence forte dans sa tête. Quelques sprennes de peur sortirent de la roche sous forme de longs vers violets et s'agglutinèrent autour d'elle. Les formes ne pouvaient être imposées. Chacun était libre de choisir pour lui-même. L'on pouvait demander et suggérer des transformations, mais pas les ordonner. Leur dieu n'avait pas autorisé cette liberté. Et ceux qui écoutent la désiraient donc. Quoi qu'il arrive. Ces gens pouvaient choisir la forme morne s'ils le souhaitaient. Et Shonai ne pouvait rien y faire. Pas directement. Elle pressa le pas. Sa blessure à la jambe lui faisait encore mal, mais guérissait vite. C'était l'un des avantages de la forme de guerre. À ce stade, elle pouvait pratiquement ignorer la plaie. Dans une cité remplie de bâtiments vides, il avait fallu que la mère des Shonai choisisse une baraque tout au bord de la ville, presque entièrement exposée aux tempêtes. Mère travaillait sur ses rangées de schiste écorce à l'extérieur, fredonnant pour elle-même sur le rythme de paix. Elle arborait la forme de travail, sa préférée depuis toujours. Même après la découverte de la forme d'agilité, Mère n'avait pas changé. Elle affirmait qu'elle ne voulait pas encourager les gens à voir une forme comme plus précieuse qu'une autre, que ce genre de catégorisation pouvait les détruire. Des paroles d'une grande sagesse. Comme Shonai ne l'avait pas entendu en prononcer depuis des années. « Ma fille !» s'exclama Mère tandis qu'Shonai approchait. Encore robuste malgré son âge, Mère possédait un visage rond et soigné, et portait les cheveux rassemblés en une tresse nouée à l'aide d'un ruban. Eshonai lui avait rapporté ce ruban d'une réunion avec les Aléti des années auparavant. « Ma fille, as-tu vu ta sœur ? C'est le jour de sa première transformation. Nous devons la préparer. »« On s'en occupe, mère, » répondit Eshonai sur le rythme de paix en s'agenouillant près d'elle. « Comment se passent les lagages ?»«
Je devrais bientôt en avoir fini, » assura mère. « Je dois partir avant le retour des gens qui possèdent cette maison. »«
Elle t'appartient, mère ?»«
Non, non. Elle appartient à deux autres. » Ils sont entrés dans la maison la nuit dernière et m'ont dit que je devais partir. Je vais simplement en finir avec ce schiste écorce avant d'y aller. Elle sortit sa lime pour lisser un côté de l'arête, puis le couvrit d'une couche de sève afin de l'encourager à pousser dans cette direction. Eshonai s'assit, se cala sur deuil, et paix la quitta. Peut-être aurait-elle dû choisir plutôt le rythme des disparus. Il s'invita dans son esprit. Elle s'obligea à changer de nouveau. Non. Non, sa mère n'était pas morte. Elle n'était pas pleinement vivante non plus. « Tiens, prends ça, » lui dit mère sur paix en lui tendant une lime. Au moins, la reconnaissait-elle aujourd'hui. « Travaille sur cet affleurement là-bas. Je ne veux pas qu'il continue à pousser vers le bas. Nous devons l'orienter vers le haut, vers la lumière. »
Les tempêtes sont trop fortes de ce côté de la ville.
Les tempêtes ? Ne dis pas de bêtises. Il n'y en a pas ici. Mère marqua un temps d'arrêt. Je me demande où nous allons emmener ta sœur. Il va lui falloir une tempête pour sa transformation.
Ne t'inquiète pas pour ça, mère, lui dit Eshonai en s'obligeant à parler sur paix. Je vais m'en occuper.
Tu es si gentille, Venli, répondit mère. Si serviable. Tu restes à la maison au lieu de courir partout comme ta sœur. Cette fille, elle n'est jamais où elle devrait être.
« Elle l'est en ce moment, » murmura Eshonai. « Elle essaie en tout cas. »
Mère fredonna pour elle-même tout en continuant à travailler. Autrefois, elle avait l'une des meilleures mémoires de toute la ville. C'était toujours le cas, d'une certaine façon.
« Mère, » dit Eshonai, « j'ai besoin d'aide. Je crois qu'il va se produire quelque chose d'affreux. Je n'arrive pas à décider si c'est moins affreux que ce qui se passe déjà. »
Mère lima une section de schiste écorce, puis souffla pour chasser la poussière.
« Notre peuple décline, » poursuivit Eshonai. « Nous sommes en train de succomber à l'érosion. Nous nous sommes installés sur Narak et avons choisi une guerre d'usure. Il en a résulté 6 années de pertes régulières. Les gens sont en train de renoncer. »«
Ce n'est pas une bonne chose, » répondit Mère.
« Mais l'alternative, elle revient à toucher à des choses dont nous ne devrions pas nous mêler. » Des choses qui risquent d'attirer sur nous le regard des incrés.
« Tu ne travailles pas, » déclara mère en la montrant du doigt. « Ne deviens pas comme ta sœur. »
Eshonai posa les mains sur son giron. Ça ne servait à rien.
Voir sa mère comme ça. « Mère, »
dit Eshonai sur supplication,
« pourquoi sommes-nous partis du sombre foyer ?»«
Ah, c'est là une vieille chanson, Eshonai, » expliqua mère. « Une chanson très noire. » Pas pour une enfant comme toi. Tu n'as même pas encore atteint le jour de ta première transformation.
Je suis assez âgée, mère. S'il te plaît.
Mère souffla sur son schiste écorce. Avait-elle fini par oublier la partie la plus récente de ce qu'elle avait été? Le cœur d'Eshonai se serra.
Bien des jours ont défilé depuis notre départ du sombre foyer, chantonna doucement mère sur l'un des rythmes de mémoire. La dernière légion. Tel était alors notre nom. Des guerriers partis se battre dans les plaines les plus lointaines, dans ce lieu qui avait été nation, mais n'était plus que décombre. Notre liberté n'était plus qu'un souvenir. Des formes inconnues nous étaient imposées. Des formes de pouvoir, mais aussi d'obéissance. Les dieux commandaient et toujours, toujours, nous leur obéissions.
À l'exception de ce jour-là,
récita Eshonai en même temps que sa mère en cadence.
Le jour de la tempête, où la dernière légion s'enfuit, poursuivit mère en chantonnant. Qu'il fut difficile, le chemin choisi alors. Guerriers touchés par les dieux,
Nous n'avions plus d'autre choix que d'adopter l'esprit morne, une mutilation qui nous libéra. Le chant calme et sonore de mer dansait avec le vent. Aussi frêle qu'elle paraisse à certains moments, elle semblait redevenir elle-même lorsqu'elle chantait les anciens chants. Une parente qui se disputait parfois avec Eshonaï, mais qu'elle avait toujours respectée. « Qu'il fût audacieux, le défi engagé », chantonna mère. Quand ceux de la dernière légion abandonnèrent pouvoir et réflexion contre la liberté, ils coururent le risque de tout oublier. Ainsi composèrent-ils des chants, une centaine d'histoires à transmettre, à se remémorer. Je te les narre comme tu les narreras à tes enfants, jusqu'à ce que les formes soient redécouvertes. Mère entonna alors l'un des premiers chants, qui racontait comment le peuple s'installait dans les ruines d'un royaume abandonné. Comment il se dispersait, se morcelait en tribus et en réfugiés. Il comptait rester caché ou, du moins, ignoré. Les chants omettaient tant de choses. La dernière légion ignorait à l'époque comment adopter d'autres formes que mornes ou accouplants, du moins sans l'aide des dieux. Comment avait-il su que d'autres formes étaient possibles? Ces faits avaient-ils été d'abord consignés dans les chants, puis perdu au fil des ans, à mesure que les paroles changeaient ici et là. Bien que la voix de sa mère l'aide à se calmer de nouveau sur paix, Eshonaï se sentit profondément troublée. Elle était venue chercher des réponses. Autrefois, ça aurait fonctionné. Mais plus maintenant.